Le char de marge le dimanche de 18h.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Sur les ondes de CISM et vous écoutez Les Fleurs du Tapis avec Sophie et Julie.
Bon jeudi tout le monde.
Bon jeudi. Parlant de jeudi, on veut s'excuser oui. pour jeudi dernier.
Mm-hmm.
On était tous les deux malades.
Ouais.
Et on a fait rediffuser un épisode et on s'est trompé. On a ouais. dit la mauvaise date et c'était notre épisode de Noël.
Donc peut-être que
les auditeurs.
Les auditrices sont comme plongées dans une
ambiance festive. On est vraiment désolés. Il y avait de la musique de Noël dedans. Là.
Oui.
C'était gênant.
Ouais.
Mais écoutez, ça vous a peut-être réjoui. Mais bon, là, on revient à la normale.
Oui, on est en février.
On ne voyage plus dans le temps. Et aujourd'hui, on vous parle de trois beaux sujets. Oui. On vous parle de la Coupe Charade de la Hélénie. Donc, on est allé voir un match, Julie et moi. On va vous parler de ça. On va aussi vous parler des défis de la ville d'hiver. Et finalement, on fait une entrevue avec la metteur en scène, comédienne, quoi d'autre? Quelle est autrice? Danielle Sofarmer pour la pièce de théâtre au Canada qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert. Donc, on vous parle de ça plus tard. Et là, on va commencer avec notre petite chronique sur la Hélénie.
Oui.
Donc, le 3 février dernier, c'était un lundi.
Le 3?
Oui,
oui
c'était un lundi soir.
Ouais.
On est allé voir le deuxième match de la Coupe Charade 2025 de la Hélénie. C'était au MTLUS.
Mm-hmm.
C'est nouveau de cette année. Avant, c'était au Club Soda que les matchs étaient présentés.
Ouais.
Et ben, la salle était bien remplie. Là.
Mon Dieu, ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde.
Ils ont bien fait de changer de salle là, pour accueillir encore plus de gens parce que jusqu'au balcon, c'était plein. Il y avait beaucoup de gens bien enthousiastes. Surtout pour un lundi.
Ouais, pour un lundi de début de semaine.
D'hiver. C'était impressionnant.
Il y avait de l'énergie.
Oui. Donc, ce qu'on a vu, c'était le match des Oranges contre les Verts avec Edic Cochrane comme arbitre.
Oui.
Cochrane. Désolée. J'ai francisé ça. Et c'est ça. Puis, ben, cette année, il y a, comme d'habitude, 40 artistes québécois de renom qui performent tout au long de la saison. Donc, allez voir ça. Pour vrai, c'est vraiment le fun de voir.
C'est divertissant. Allez-y entre amis.
Oui.
Avec des gens.
Souper avant, peut-être.
Ouais, peut-être.
Moi, j'avais oublié de souper, donc j'ai soupé sur des chips et de la bière.
Ouais.
Ça remplit à sa façon, mais c'est pas soutenant.
Oui, on fait rapidement le tour.
Oui, exactement. mais c'est ça, donc c'est vraiment des improvisateurs de plus haut calibre, donc la LNI, la Ligue nationale d'improvisation, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, différentes équipes performent tout au long de la saison. C'est vraiment le fun. Je sais pas trop dans quel ordre on veut faire ça, mais peut-être parler de tes impressions, toi, Julie, ou peut-être de ton rapport à l'impro. Est-ce que tu es allée voir beaucoup de matchs d'impro, toi, dans ta vie?
Ben, c'est pour ça que je trouvais ça vraiment le fun d'y aller, parce que la dernière fois que j'avais été voir un spectacle de la LNI, c'était quand j'avais peut-être 12 ans, ce qui fait quand même vraiment longtemps.
Ouais.
Puis, je me rappelle qu'il se passait beaucoup de choses. Puis, j'avais peut-être de la misère à suivre des fois.
Mm-hmm.
Puis, j'ai compris là, pourquoi j'avais un peu de la misère à suivre. Mais c'est super, c'est super drôle. Puis, c'est aussi le fun de voir comment les différents improvisateurs aborde les sujets aussi.
Ben oui, se débrouille.
Oui.
Est-ce que tu sais, quand t'es allé le voir, c'était Yvan Ponton qui était l'arbitre?
Eh, bonne question.
C'est comme
sûrement,
une légende.
Mais oui, sûrement.
Mais là, la bonne nouvelle cette année, c'est qu'il est aussi arbitre encore.
Oui.
Fait que, dépendamment des soirées,
on l'a vu apparaître.
Oui, il a fait une petite apparition sur scène. J'étais bien contente de le voir. Et j'avais oublié, bon, ça faisait un petit bout, j'étais un peu allée voir de l'impro. J'avais oublié qu'on bouait les arbitres. Moi, j'étais comme, yeah,
Yvan Ponton,
je l'aime tous! Tout le monde était comme, bouh! Ah, oh, j'étais comme, oh, c'est vrai. Mais j'ai été une grande fan d'impro. tout au long de ma vie. Au secondaire, je n'ai manqué aucun match d'impro. Mais j'ai jamais joué d'impro parce que j'étais trop gênée.
Est-ce que tu te souviens du nom de l'équipe d'impro ou des équipes de la ligue, peut-être?
Je me rappelle pas, c'était quoi? Je me rappelle vraiment pas. C'était pas marquant. Ça devait juste être la ligue d'impro de la Cité des Jeunes. Tu sais, ça devait. Puis je suis pas sûre qu'on avait un nom spécifique. Mais j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de matchs. Après ça, j'ai vu aussi beaucoup de matchs de la QI, qui était la Coupe universitaire d'improvisation.
OK.
Fait que ça, j'aimais beaucoup ça. Puis ben, pour ceux qui sont pas familiers avec l'impro, là, pourquoi vous iriez voir la LNI? Ceux qui connaissent déjà ça, vous avez sûrement déjà vu la LNI à la télé, entre autres, vous êtes sûrement déjà allé voir des matchs. Mais pour ceux qui ne savent pas, pourquoi aller voir la Coupe Charade? Pourquoi c'est pertinent? La petite histoire de l'impro, c'est que ça s'inspire du concept d'un match d'hockey. Donc, il y a trois périodes. Les joueurs entrent sur la glace, en guillemets.
Il y a des bordures.
C'est ça, une genre de patinoire de jeu où les joueurs s'affrontent. Puis, l'idée, c'est de faire des sketchs, tu sais, sur différents thèmes, avec différents styles. C'est vraiment un jeu théâtral qui s'inspire du théâtre. Et c'est une invention. Une idée de Robert Gravel et de Yvon Leduc. Le premier match d'impro sous cette forme a lieu à l'automne 1977.
1977. Ouais, ça fait un petit
coup. Ça fait très, très, très longtemps. Je ne veux pas insulter personne qui est peut-être née cette année-là, mais ça fait longtemps. Puis, il existe des ligues de partout dans la francophonie canadienne, mais aussi ailleurs dans le monde. Puis, j'étais curieuse, je me suis informée à savoir si le match d'impro sous forme de match d'hockey, entre guillemets, est-ce que c'était spécifique au Québec? Est-ce qu'il y en avait ailleurs dans le monde sous cette forme?
Tout le monde traîne ses bandes de...
Oui, c'est ça, ses bandes de hockey. D'arène. la réponse, c'est que oui, ça existe ailleurs. Mais c'est vraiment une invention québécoise. Donc, c'est vraiment Robert Gravel et Yvon Leduc. Puis, pendant longtemps, eux, ils vendaient, entre guillemets, le concept. Les ligues qui voulaient... les gens qui voulaient créer des ligues devaient payer $1 symbolique à Robert et Yvon pour dire on reprend votre concept puis on fait des matchs. T'sais. Mais quand ils sont décédés, le vent a tourné. C'est je ne sais pas quel regroupement là, qui a pris un peu les droits d'auteur de ce concept-là. Puis maintenant, ça coûte quand même beaucoup plus cher
de se partir une ligue.
Ouais. Fait que je ne sais pas là, les tenants juridiques de tout ça, mais je trouve ça quand même intéressant. Mais il existe quand même des ligues là, qui font des matchs comme ça en France, en Belgique et tout et tout.
Puis, à travers l'histoire, est-ce que tu as vu un rapport avec la patinoire? Est-ce qu'il y a...
Qu'est-ce que tu veux dire?
Est-ce qu'il faisait des improvisations sur à glace? Même la glace?
J'ai jamais vu de match d'impro sur glace, mais... non, ça reste du plancher. Ça serait peut-être dangereux, mais ça serait un bon concept. Un match d'impro, mais au Centre Bell.
Ouais, tu sais, comme après le match des Canadiens.
C'est ça. Ils vont sur la glace, puis là, le défi, c'est de patiner dans tous les sens, là. Patiner dans ton impro.
Et de raconter des histoires.
Exact.
Des sketchs.
ça serait intéressant de voir ça. Moi, j'aimerais juste faire une petite mention. Une impro qu'on a beaucoup aimée le soir où on est allé, c'était avec Corinne Fortin et Joannie Guérin qui ont fait une chantée. Qui était très drôle. Puis surtout, ce qui était... Tu t'as dit que t'aimais beaucoup les chanter.
Oui, c'est vrai. Je pense que je les ai particulièrement... ça m'a particulièrement capté, les chanter.
Ils étaient super bonnes, puis je pense que la magie a opéré parce que on dirait qu'ils... Je sais pas, ils faisaient des harmonies. Ils étaient bien là, synchronisés dans leurs chansons comme s'ils l'avaient pratiqué. Bon, non, pas comme s'ils l'avaient pratiqué, là, mais... En tout cas,
ils l'avaient pas pratiqué,
c'est sûr, mais c'était vraiment très drôle sous le thème de la séduction. Ça m'a bien fait rire. Puis... c'est ça. Écoute, j'avais envie de parler de les différences que je voyais entre l'impro québécois et l'impro du Nouveau-Brunswick. Parce que moi, les premiers matchs d'impro que j'ai vus, c'était au Nouveau-Brunswick. Il nous reste plus énormément de temps, mais en bref, je pense que le rapport aux arbitres est quand même différent.
OK.
Tu sais, il y a quand même la notion de l'arbitre, on l'aime pas un peu. Mais, ou c'est peut-être moi qui aime trop les vilains dans les histoires. C'est pas mon genre d'habitude, mais moi, j'adore les arbitres. J'adore leur rigueur. J'aime ça quand ils ramènent l'ordre, quand ils donnent des bonnes punitions. Quand ils disent,
vous avez pas été dans la bonne direction.
C'est ça, vous avez pas respecté le thème, vous avez
C'était
pas respecté.
Pas ça, le pastoral.
Exactement, ça s'est passé pendant notre match. Mais je trouvais que le rapport à l'arbitre était un petit peu différent au Québec, tu sais, puis des fois qui prenait moins de place étonnamment, tu sais, dépendamment. Là, je pense plus à la QI, là, c'est plus dans les matchs universitaires que j'avais remarqué la différence. Puis ben c'est pas mal ça. J'essayais de penser à d'autres affaires, mais c'est trop long à raconter. Fait que en tout cas, donc on vous encourage à aller voir la Eleni, la Coupe Charade, c'est jusqu'au 12 mai. Fait que au MTLUS à Montréal, manquez pas ça. Allez vous acheter des billets maintenant.
Je
Oui, vous écoutez Les Fleurs du Tapis à CISM 89.3. On était en musique avec la chanson Encore de Caroline Savoie. L'autrice, compositrice, interprète acadienne nous offre un nouveau single. Elle sortira un nouvel album le 14 mars prochain.
C'est pas facile, ça. Mars prochain.
Petit exercice de diction. Il y avait ensuite Le Feeling, feat Marco Emma et Ponte X. Et Sophie Richard, cette semaine, a découvert Marco Emma et Ponte X. Et Ponte X est Françoise Quoi.
Oui.
Sophie, qu'est-ce que ça veut dire, Françoise Quoi?
Ben, ça veut dire que c'est un francophone de la Saskatchewan.
Ah!
Voilà, tout simplement. Donc, on est en entrevue aujourd'hui avec l'autrice, metteur en scène et comédienne Danielle Le Saut-Farmer. C'est bien comme ça se prononce, hein?
Oui, farmer ou farmer, là, ça dépend. Okay. Montréal, Québec, ça dépend.
Puis, qui présente la pièce de théâtre au Canada, au Théâtre du Rideau Vert, du 18 février au 1er mars 2025. C'est une création du théâtre Catapulte, une pièce de théâtre documentaire dans laquelle 5 acteurs incarnent différents archétypes de ce que peut être un francophone du Canada. Puis, si je ne me trompe pas, la pièce a été présentée déjà en décembre dernier à Ottawa, non?
Oui, exactement. On a présenté début décembre à Ottawa, ouais.
Super. Puis là, bientôt à Rimouski, puis là, à Montréal.
Ben là, bientôt demain, là.
Demain. Ben là, nous, notre épisode est diffusé le jeudi, fait que ça va déjà être passé.
On est dans le futur. On va l'avoir joué, puis on va se dire que c'est un succès.
Oui, ben c'est sûr, c'est assuré.
Ouais.
Mais pour vrai, je suis super contente de t'avoir en entrevue, parce que c'est un sujet qui me parle beaucoup, moi, en tant que francophone qui a grandi au Nouveau-Brunswick et qui est débarqué à Montréal. Fait que quand j'ai lu le synopsis de la pièce, j'étais comme, OK, je comprends tout et ça me parle beaucoup et j'ai plein de questions, donc je trouve ça super...
C'est dans tes cales.
Oui, exactement. Donc, peux-tu me parler un peu justement de comment, tu sais, cette idée-là émergé de cette pièce-là, de ce que j'ai compris, ça fait quand même un moment que la recherche a commencé, puis que la création et tout, là.
Oui.
Donc, si tu veux nous en dire.
On a démarré ça, oui, on a démarré le projet, la recherche en 2018-2019. L'idée est apparue avec mon collègue, mon complice de création, Nicolas Gendron, et Noémie F. Savoie, qui est la co-autrice puis une interprète aussi, s'est rajoutée à notre trio à peu près 2 ans et demi plus tard. Puis, à la base, Nicolas, comme un fier Québécois, là, il vient d'à peu près Victoriaville, il dit là, le français tatoué sur le cœur et tout ça, il voulait faire une recherche documentaire, théâtrale, liée aux 40 ans de la loi 101.
OK.
Parce que la loi 101, tu sais, c'est un outil... c'est un phare là, dans l'histoire québécoise. Ça a comme un peu changé l'avenir du Québec en termes de francophonie.
Oui.
Et en même temps, en parallèle, on s'apprêtait à souligner au niveau fédéral les 50 ans de la loi sur les langues officielles.
OK.
Fait que ces deux anniversaires-là, pour nous, ont été un peu des déclencheurs pour se dire on a des outils législatifs. On entend beaucoup de choses dans les médias. Aussi, à chaque fois qu'il y a un recensement qui sort aux 5 ans, on nous dit toutes sortes d'affaires. Et les chiffres et les statistiques sont récupérés au niveau médiatique et dans la population, des fois pour nous rassurer, des fois pour semer la peur. Mm-hmm. Après ça, quand la question de la langue française est récupérée par la classe politique pour ses fins, hein, pour ses intérêts, selon le parti au pouvoir, qu'on a vraiment voulu faire une recherche documentaire de fond avec des experts, la sociolinguistique, toutes les facettes pour bien comprendre comment le français survit, comment ça se passe réellement, et ensuite aller sonder la population, les francophones, comment ils sentent par rapport au supposé déclin, où est-ce que les gens se situent sur ce qu'on appelle, nous, dans le projet, le spectre du militantisme linguistique.
OK.
C'est à peu près ça là, qui nous a déclenché.
Ah ben c'est super intéressant. Puis toi, mettons, comme tu es franco-ontarienne.
Oui, franco-manitobaine de naissance.
Manitobaine.
Ontarienne. Oui, et franco-ontarienne que je dis en blague là, d'élevage. Là, je suis née à Winnipeg.
OK.
Et la famille de ma mère vient de Saint-Boniface, au Manitoba, mais j'ai vraiment grandi comme jeune franco-ontarienne. Là. Puis j'ai passé une partie de ma vie adulte à Québec.
OK.
Donc, j'ai comme parcouru là, tu sais, toute la situation minoritaire pour vivre dans la majorité, parmi la majorité.
Ben oui. Ouais, de Saint-Boniface, qui est quand même ultra reclus, petit, un peu, là, comme communauté francophone.
Oui, très vibrant, très résistant, résilient, mais effectivement, beaucoup plus petit, tu sais, que Ottawa, par exemple, où j'ai grandi, où il y a un contact avec l'Outaouais. On dit qu'Ottawa... C'est ça, c'est juste à côté. Puis, tu sais, l'Outaouais, Ottawa, c'est comme une grande région. Mm-hmm. Des fois, l'Ouest québécois puis l'Est ontarien, tu sais, c'est comme un endroit en soi qui est assez particulier à cause de la fonction publique fédérale et tout ça, le bilinguisme. C'est une autre réalité que d'être, par exemple, francophone du nord de l'Ontario. Oui,
c'est ça. Tu avais une expérience quand même différente. Puis quand même une culture francophone riche autour de toi aussi. Mm-hmm.
Tout à fait. Ça reste que, tu sais, mon autre rapport à la langue, puis je pense que ça, c'est où on se complétait bien, Nicolas, moi et Noémie. Nicolas et Noémie qui sont des Québécois.
Ouais.
Moi, je suis fille d'un couple exogame. Fait que c'est comme une nomenclature un peu fancy pour dire que je viens d'un couple où mes parents, il y a une francophone et mon père est anglophone unilingue, il est américain.
De là, le farmer de ton nom, j'imagine?
De là, le farmer. Okay. Le farmer de Akron, Ohio. Fait que vraiment grandi dans un milieu vraiment bilingue.
Mm-hmm.
Et à la maison, en famille, ben ça se passait en anglais à cause de mon père.
Ouais.
Mais ma mère était, tu sais, fervente, là, genre en français, tout ça. Mon Dieu, ça me tapait ses nerfs, c'était épouvantable. Mais grandir dans ce milieu-là, ça pose aussi rapidement, quand t'es adolescente, puis ensuite jeune adulte, c'est de faire un choix.
Mm-hmm.
Parce que du côté de ma mère, comme c'est toutes des sœurs francophones qu'elle a, mais qui ont grandi avec des maris anglophones et tout ça, puis j'ai beaucoup de cousines qui n'utilisent plus le français.
Ouais.
J'ai même des cousines qui ne sont pas allées à l'école en français. Puis là, ces cousines-là commencent à avoir des enfants, puis les enfants sont unilingues anglophones.
Mm-hmm.
Fait que je constate aussi dans ma propre famille le déclin démographique et aussi l'assimilation.
Oui, c'est ça. Puis c'est quand même un défi c'est ça, de tous les instants de faire survivre une langue, surtout en famille. Là. Je pense à... En tout cas...
Tu as des expériences aussi.
Oui,
là.
J'ai des expériences aussi. Ma sœur qui a un enfant, puis que son chum, il parle anglais. Fait que là, ensemble, à la maison, il parle anglais. Puis, tu sais, après avoir une place en garderie francophone au Nouveau-Brunswick, c'est difficile. Fait que ça aussi, ça participe à l'éducation de l'enfant, mais des fois, tu n'as pas le choix. Fait que...
C'est la nécessité qui vient en lien avec à quel point tu as un attachement. Mes sœurs vivent la même affaire avec des recherches de garderie en français.
Mm-hmm.
Même à Ottawa, les places sont limitées. Fait que, tu sais, c'est comme une affaire de tous les instants quand tu es en situation minoritaire. Et souvent, puis ça, ça a participé de l'intérêt du projet, expliquer ces réalités-là à des Québécois qui n'ont aucune idée de ton existence.
Exact.
Mm. C'est confrontant dans ton identité. C'est comme une confrontation à laquelle j'étais pas vraiment préparée. D'expliquer mon existence.
Mais ça m'a tellement rejoint. Là. J'ai lu une entrevue que tu avais donnée à ONFR. Là. Puis ça m'a beaucoup parlé, l'aspect blessure de ça, de sentir comme invisibilisé, de devoir tout le temps expliquer, mais nous, on existe, puis nous, c'est important. Puis des fois, parler à des Québécois hyper indépendantistes, puis d'expliquer un peu, mais nous aussi, on existe, là, avec notre français, puis oubliez-nous pas. Puis... Mais en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Moi, je me demandais, ton expérience à toi, tu sais, comme quand t'es arrivée à Québec, c'est dans la ville de Québec, comment t'as vécu ça, cette espèce d'identité-là qui s'étire, comment t'as vécu ta francophonie? Parce que, tu sais, là, même dans ton accent, tu sais, il y a quelque chose aussi de...
Ben, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose dans le spectacle qui vient raconter ça.
Okay.
De mon point de vue, c'était pas nécessairement, je voulais pas nécessairement à la base parler de moi, mais c'est une anecdote personnelle, mais qui parle d'un phénomène. Parce que ça, c'est pas vraiment raconté dans le show, mais vraiment, quand je suis arrivée là, premièrement, j'ai vécu un immense choc culturel. Je pense que j'aurais pas vécu ça si j'avais été à Montréal, par exemple, qui est plus une métropole.
Okay. Ouais, où les gens sont plus habitués. Québec,
puis à Québec, j'avais premièrement, j'avais aucun référent culturel. Fait que je me sentais vraiment perdue. Je savais pas qui était Guylaine Tremblay. Je savais pas qu'est-ce que c'était un gars, une fille.
Ouais.
Je faisais des recherches le soir là, sur mon ordinateur. Là. J'avais même pas de téléphone intelligent dans ce temps-là. Puis, tu sais, je me faisais une liste de choses. Il faut que j'apprenne. Je sais c'est qui Véronique Cloutier. Là. Tout le monde parle de Véronique Cloutier. Je sais absolument pas c'est qui.
Fait que juste un showbiz culturel, québécois.
Zéro.
Ouais.
Puis, d'un point de vue culturel, donc, je vivais un choc. Mais au-delà de ça, j'avais quand même un gros accent franco-ontarien en quittant Ottawa. Il était très prononcé. Et comme je suis allée étudier dans un conservatoire de jeu,
je
suis tellement reconnaissante qu'ils m'aient choisi. Mais avec les profs de diction, avec les profs de jeu et tout ça, c'est rapidement devenu un enjeu qu'il fallait que je corrige mon français. Il fallait que je puisse mettre les accents toniques à la bonne place, même en jouant des textes qui n'étaient pas les miens. Puis, c'est seulement des années plus tard que j'ai constaté l'impact que ça a eu sur mon identité. Parce qu'à l'époque, je me disais, je veux juste faire partie de la gang. Je veux parler comme eux. Mm-hmm. J'apprends à sacrer comme eux. Tu sais, à l'époque, je disais pas... bon, là, je vais pas dire les sacs parce qu'on est à radio. Là, je vais pas lâcher les oreilles. Mais tu sais, les sacs là, que vous connaissez québécois, je m'en servais pas.
OK.
C'était des sacs anglophones. Mm-hmm. Fait que là, j'ai commencé à copier comment les gens parlaient juste pour, au quotidien... Comme faire répondre en anglais dans les cafés. Je me faisais répondre en anglais dans les cafés au début, là, quand j'étais à Québec. Fait que c'est sûr que l'impact identitaire, je l'ai mesuré bien plus tard. Mm-hmm. Et en arrivant au conservatoire dans les premiers mois, j'étais pas vraiment timide, mais comprenez-moi bien, j'ai compris qu'on allait toujours commenter ma façon de parler, donc j'ai vraiment arrêté de parler pendant un temps. Puis tout le monde me disait, mon Dieu, Danielle est tellement timide. Elle pourrait jouer les bonnes, silencieuses, tout ça. Mais c'est parce que j'étais vraiment gênée de comment je parlais jusqu'à ce que je développe une façon de les copier. Et donc, avec le temps, ça fait que mon français à moi, il s'est comme nettoyé. Et là, ceux qui écoutent cette entrevue doivent savoir que j'utilise des gros guillemets. Mais on n'était pas dans la célébration de mon franco-ontarien.
Oui.
Il fallait que je l'efface.
Est-ce que ça revient quand tu parles avec ta famille, toi?
Oui, bah oui, absolument.
C'est ça, c'est comme on code switch facilement.
Mais toi, exact, c'est du code switching. Mm-hmm. Mais toi, Sophie, est-ce que ça revient?
Absolument, absolument. Je passe deux minutes avec un ami du Nouveau-Brunswick, puis c'est ça.
Ça switch.
Mais après, c'est comme switch. Toi, là, pour me fondre dans la masse, pour pas que les gens parlent juste de mon accent, il y a ça aussi. Là, des fois, t'es comme, je suis tannée là, d'être un objet de cirque. Là, fait que arrêtez de me faire parler, je vais juste...
Oui, c'est ça. On fait la blague un peu dans le spectacle, mais tu sais, c'est un peu être la bête de cirque, le gag. Tu sais, des fois, je l'exagérais une fois que j'étais capable de justement faire du code switching. Tu sais, mais ça nous met dans une drôle de position identitaire, tu sais, parce qu'on est capable d'avoir de la dérision. Mais là, c'est comme si on riait de cette culture-là, parce qu'aussi, et de cet accent, je me disais, hey, mes sœurs parlent de même, là. Ma mère, tu sais, mes amis franco-ontariens.
Ben oui.
C'est très confrontant. Puis, j'essaye pas de dire, tu sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus minorisés que moi, là. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'est comme, ça pouvait être de la discrimination, comme on dit, auditive ou audible, tu sais, dans l'accent. Ouais. Fait que c'est dans la pyramide ou la hiérarchie, là, par exemple, des niveaux de discrimination, je suis extrêmement privilégiée. Mais en tant que francophone, j'ai trouvé des outils de survie dans mes années au Québec pour, comme tu as dit, je te cite toi, mais me fondre dans la masse.
C'est ça.
pour me dire juste arrêtons, là, je veux être comme vous, je veux faire partie de la gang.
Ouais.
Des fois même, ça m'est arrivé de mentir en me disant oh, oui, je suis née à Gatineau. Tu sais,
ah oui.
Tellement pour ne pas faire partie du Rest of Canada. Là,
Oni
Rest of Canada. Mm. Parce qu'aussi, là, on parle de langue. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est dans toutes nos recherches, ça a été confirmé à plusieurs reprises. Souvent, quand on parle de langue ou de la langue de quelqu'un, on parle de d'autres choses. On parle de questions politiques.
Oui. Mm.
Quand c'est en rapport avec le Québec, il y a toute la notion indépendantiste, souverainiste, nationaliste, appelez-le comme vous voulez. Le rapport au Canada, au fédéral, la liste est longue. Là.
Oui.
Et aussi une question de classe sociale. Parce que souvent, quand on parle, entre guillemets, « moins bien », puis là, c'est des gros guillemets, ça témoigne de là d'où on vient. Et donc, cette affaire de classe sociale aussi, de niveau d'éducation, c'est beaucoup de choses. Fait que quand on commente l'accent de quelqu'un, faut savoir que ça recoupe toutes sortes d'affaires, qui n'est pas juste purement linguistique.
Mm-hmm. J'imagine que c'est des questions que vous creusez dans la pièce.
Oui, exactement, exactement.
Puis comment vous avez fait comme le choix des interprètes, tu sais, parce que c'est tous des francophones qui viennent de l'est du pays, là, dans de différentes régions. Est-ce que, puis là, tu disais, toi, tu racontes un peu de ton histoire comme interprète. Est-ce qu'il y a... C'est quoi la part de ce qu'ils ont réellement vécu, puis le résultat de vos recherches que vous voulez communiquer? Comment vous avez...
Oui, c'est ça. On a pris leur point de vue, leurs histoires personnelles. Évidemment, on a tout un peu théâtralisé, fictionnalisé. Oui. Là, c'est pas purement documentaire. Il y a un cadre fictif là-dedans. Mais j'ai rencontré, donc, Noémie dans le cadre de la recherche, qui est une comédienne, aussi quelqu'un qui a étudié en linguistique et en traduction à Ottawa. Elle a vécu à Halifax. Okay. Fait qu'elle connaît les situations minoritaires, mais très fière québécoise, qui habite à Québec maintenant, le Québec. Là, on dit québécoise au carré. Ensuite, les deux autres interprètes, donc Ziad Ek et Carlo Weka, et il y a Mariana Kaczmarski aussi, c'est des interprètes. Ziad, je le connaissais avant, c'est un franco-ontarien, même s'il refuse le terme. Okay. C'est un francophone.
Okay.
il aime pas la revendication communautaire, c'est un peu exploré dans le show. Lui, je l'ai connu avant parce qu'en franco-ontarien, artiste, on se connaît, c'est un petit milieu. Il était à Toronto. Et ensuite, j'ai rencontré Carlo Weka sur la tournée de 1-2-3 de Mamie Soleil-Manlou, la tournée pan-canadienne.
Oui.
Puis, en discussion pendant la tournée, c'est parce que le show, il parlait de langue et d'identité, mais au final, pas tant que ça. On creusait pas les questions, mais en jasant avec ces deux-là, puis Carlo, il vient de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et d'origine congolaise. Ziad est d'origine égyptienne. Puis toute la question de l'immigration, elle est très importante dans le sujet de la langue française au Canada et au Québec. La survie de la langue, partout, beaucoup plus hors Québec qu'au Québec, mais quand même, on dépend de l'immigration francophone.
Oui, pour que la francophonie survive dans ces milieux-là.
Absolument. Ouais. Parce qu'on est dans un déclin démographique. Il y a une baisse du taux de natalité depuis des décennies, là, partout. Puis le taux d'assimilation, il est énorme dans les provinces.
Puis l'exode des francophones aussi, tu sais.
L'exode, on en est les exemples,
on quitte les régions. Puis...
Exact. Puis il y a des enjeux importants d'exode au Nouveau-Brunswick, entre autres. Fait que ces interprètes-là, Mariana Kaczmarski, qui est d'origine ukrainienne, qui a grandi en immersion française à Toronto, français maintenant, anglais, ukrainien. Fait que tous ces profils-là, autant de leurs origines en tant que francophones, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de travailler avec des gens qui avaient plus ou moins d'attachement à la survie de la langue. Tu sais, comme Carlo, très fier acadien, mais qui se questionne sur son acadienneté. Parce que souvent, on lie l'acadienneté au sang, ce qui est déjà un concept assez, pas problématique, mais délicat. Là. Il y a beaucoup d'Acadiens qui vont parler de la transmission de l'acadienneté par le lien de sang. Est-ce que l'Acadie est une communauté d'accueil et d'inclusion et d'appartenance, ça le devient. Mais c'est beaucoup plus ça qu'en Ontario français, où là, c'est comme tout le monde devient franco-ontarien. Là. Dès que t'arrives là, tu parles français, bienvenue. Là,
il y a moins cette histoire-là historique qui...
La déportation. Là, aussi, les Acadiens ne sont pas de la même souche française, souche, là, on s'entend, que les Québécois de la Nouvelle-France. Bon. Puis donc, Carlo, très engagé, très la fierté là, dans le tapis. Et Ziad, qui se situe dans une zone beaucoup moins engagée, beaucoup plus détachée. Comme je parlais de la non-appartenance à la communauté, un peu plaquée. Fait que tous ces archétypes, pour moi, ça raconte aussi les citoyens qu'on a rencontrés. À travers nos 4 ans de recherche, on a fait des résidences en Acadie, en Ontario, au Québec. Puis, on a rencontré des citoyens, des centaines de citoyens en entrevue, de tous ces niveaux d'engagement-là. Il y en a que c'est comme je vais me rendre au front jusqu'à la fin de mes jours pour la survie de la langue. Puis d'autres qui font, moi, ça me touche que très peu. Là. J'aimerais ça qu'on s'occupe de l'urgence climatique puis qu'on arrête de parler de la langue. Parce que ça fait juste nous déchirer. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup été question dans nos recherches avec des intervenants autochtones, avec des gens qui parlent des langues autochtones. Est-ce qu'on peut légitimement se battre pour la langue française, si on ne fait pas de même pour la protection, le renouveau, la revitalisation des langues autochtones, qui sont les langues fondatrices réellement.
Très bonne question.
Et pas les langues coloniales. C'est une vraie question éthique. Moi, je connais la réponse pour moi, c'est-à-dire il faut en faire autant pour les langues autochtones. Mais dans ce monde post-colonial le Canada qui est encore très colonial dans sa façon d'interagir avec les langues autochtones. C'est confrontant quand on se pose ces questions-là parce qu'on se victimise comme francophone beaucoup, québécois et hors Québec aussi. Mais c'est comme, ouais, il y en a qui ont vraiment vécu de l'assimilation réelle puis de l'extinction orchestrée par le gouvernement.
Ça permet de relativiser puis de...
Ben, tu sais, j'espère. J'espère que ça puisse aider les gens à relativiser, mais... Pas tout le monde, hein? On connaît les chroniqueurs que, hey boy!
Non, je comprends. Fait que pour résumer tout ça, là, ça serait quoi comme une chose que tu dirais que les gens retiennent, tu sais, comme de après être allé voir la pièce? Qu'est-ce que tu veux qu'ils ressortent de tout ça? Parce que, ben, tu sais, je sais que tu disais aussi que ça s'adresse peut-être plus aux Québécois pour montrer un peu cette réalité-là. Peut-être que les francophones hors Québec vont un peu se dire, ah, oh, je suis déjà au courant de...
Je sais.
C'est ça.
Je sais ces choses. C'est ça. Fait que peut-être que d'une part, il y a quelque chose de la... Bon, c'est pas très sexy comme terme, là, mais tu sais, mettons, de la sensibilisation, de l'ouverture des œillères, l'éveil à certaines réalités.
Oui.
Je veux poser la question... de la solidarité sans donner une réponse unique. Mais je veux poser la question et que les gens se la posent. Pouvons-nous être solidaires? Si la réponse est oui, on en vit, ben alors comment? Dans le setup fédéral. C'est là, c'est les tarifs, là, la menace des tarifs qui nous a rendus solidaires d'une province à l'autre, à part l'Alberta, mettons. Là. C'est mon opinion. Mais sur la question de la survie de la langue, c'est moi, mon opinion, mais il y en a plein qui sont exprimés dans le spectacle. Mais là, moi, mon opinion, Danielle Le Sauffameux, la citoyenne francophone, là, canadienne, c'est de dire, tu sais, comment on peut dire que la langue française va bien sur le territoire, même au Québec, si on laisse mourir les autres communautés? D'abord, en les ignorant, puis ce qu'on expose dans le spectacle, que là, c'est peut-être un punch, fait que je vais pas le donner l'exemple. Et non seulement on ignore leur existence ou on les invisibilise ou on les méprise, mais les gouvernements québécois ont même travaillé contre les revendications des Franco-Canadiens dans le contexte fédéral. Fait que j'aimerais ça qu'on se pose la question de la solidarité. Puis la dernière affaire que je rajouterais, que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que il y a une distinction qu'on utilise dans le show, mais qui a été un peu créée par Frédéric Lacroix, l'auteur de « La loi 101 est un échec ». Et il dit, il faut faire attention quand on parle de langue ou de sujet épineux polarisant entre la météo et le climat. Le climat, c'est le portrait statistique, objectif, les données, qu'en est-il vraiment? Et la météo, c'est comme, ben voyons, il fait bien frette en juillet, là. Ça veut pas dire que la planète se réchauffe pas. Il fait...
Oui, c'est le moment. Comme,
c'est le moment, c'est l'expérience, c'est le ressenti, c'est les a priori, tu sais. Ouais, j'étais allée m'acheter mon lait au dépanneur, puis tu sais, là, il m'a servi juste en anglais, puis ça veut dire que l'anglais est en train de prendre le dessus sur le plateau Mont-Royal. Tu sais, attends un peu, là.
Oui, c'est ça, d'extrapoler ce petit moment-là pour...
T'sais, le dépanneur, c'est le meilleur exemple, l'incarnation de ça. Fait que, essayez de distinguer pour la langue, mais pour plein de sujets, quand est-ce qu'on parle de météo, puis quand est-ce qu'on est dans des choses plus vraies, objectives et réelles qui s'analysent. Et non pas les réactions épidermiques que la météo peut faire vivre.
Ah, mais c'est très bien dit. En tout cas, si ça ne vous a pas donné envie de le voir, moi, j'ai encore plus envie d'aller voir la pièce. Mais merci beaucoup, Danielle. Donc, merci, je rappelle Danielle. Que c'est une pièce de théâtre qui a l'air très intelligente, drôle et pertinente.
Très drôle, très drôle. On rit beaucoup. Ça, c'est ça.
Présentée au Théâtre du Rideau Vert du 18 février au 1er mars. Donc, vous irez voir ça.
Merci beaucoup, Danielle.
On peut...
Merci.
Tendre les bras. c'est toi aussi tu croques la pomme. C'est comme ça qu'on décide de faire face à nos peurs liées à l'enfance. Un abri qu'on a bâti ensemble et on semble être si content. À chaque fois qu'on vit passionnément, on s'aime jusqu'à quand? Parce que j'ai rien à faire pour un temps, parce que je vais bien en ce moment. Est-ce que ce jeu brise peu à peu les repères que j'ai tant aimé faire? Je vais cueillir des réponses dans ces fleurs qui me rendent si fière, que je garde comme trophée honteux. Animal qui cache ses blessures pour réussir à garder en bien sûr le peu d'amour. Qu'il nous reste, on s'aime jusqu'à quand? Parce que j'ai rien à faire pour un temps, parce que je vais bien en ce moment. Ah, ah, ah. On s'aime jusqu'à quand? Parce que j'ai rien à faire pour un temps, parce que je pense à toi un peu trop souvent. Plus trop qu'est-ce que ça donne. Et si tous les jours c'était le moins doux.
On vient d'entendre On s'aime jusqu'à quand de Marco Emma et Gabriel Schunk. Et juste avant, c'était Soleil Soleil d'Ariel Soucy. Donc, je voulais juste faire une petite précision. Tout à l'heure, je me suis trompée quand on parlait de la pièce de théâtre au Canada. Ce n'est pas au théâtre du Rideau Vert, mais bien au théâtre Denise Pelletier que ça joue. Donc,
notez bien.
Notez bien.
Merci.
Donc, Julie,
oui.
Tu nous parles de quoi?
Je vous parle de La ville d'hiver.
Ah!
Quelques suggestions de lecture,
okay.
Mais aussi quelques défis de conception de la ville d'hiver.
Okay.
Et des pistes.
Des
pistes? Sait...
Des pistes cyclables?
Non? Des pistes de conception.
Ah, OK, parfait. Non, mais pour vrai, je pensais vraiment que c'était oui, piste-là.
Mais t'es pas très loin de celle-ci. D'abord, j'avais une question pour toi, Sophie. Y a des gens qui aiment beaucoup l'hiver, il y en a d'autres un peu moins. Je veux savoir, toi, comment tu décrirais ton expérience en ville cet hiver?
En général, c'est pas mon moment préféré pour me promener en ville l'hiver. J'aime pas vraiment marcher avec mes bottes. Mmh. Encore moins quand il y a de la neige sur les trottoirs. Je trouve que ma démarche est lente. Mmh. J'ai l'impression de pas pouvoir aussi admirer le paysage autour de moi parce que je me recroqueville dans mon manteau, la tête basse pour pas avoir le vent. Mmh. Fait que je peux pas dire que je trippe, là. C'est beau la neige et tout, mais...
OK.
Ouais, toi?
Comment j'expérimente la ville? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent.
Ouais.
Beaucoup de vent, mais on dirait que je me lève toujours les yeux pour regarder les petits flocons là, qui tombent, voir un peu leur densité. Je suis comme...
Apprécier ton expérience.
Oui, exact. Mais c'est vrai que c'est pas toutes les rues puis les quartiers qui sont faits pour être agréables l'hiver. Puis de laisser de la place à l'hiver aussi.
Ouais.
Parce qu'on a tendance à la pelleter puis à l'enlever.
Moi, je suis contente de ça quand même.
Oui, je comprends. Il y a plein d'opinions et d'expériences en hiver.
divergente de la ville,
oui. Oui. Puis, le sujet que j'aborde aujourd'hui, bien, reprend des connaissances et des informations que j'ai rassemblées à l'hiver 2023 avec mes collègues de classe, Maria et Nicolas.
OK.
Donc, je les salue. Puis, je les félicite encore pour le chouette travail inspirant qu'on a fait. Fait qu'on s'est intéressé à comment les aménagements à l'échelle de l'architecture de paysage et à celle de l'urbanisme peuvent préserver la sociabilité des espaces, de ces espaces de vie extérieurs-là.
L'hiver.
L'hiver, okay. Exactement. Fait que la littérature, on a trouvé des sources vraiment intéressantes sur le sujet qui parlent de comment vivre dans la nordicité. Fait que je vais vous en nommer quelques-uns.
Parfait.
Donc, d'abord, on a le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord qui se retrouve à l'UQAM, qui a publié un magnifique assemblage d'essais pluridisciplinaires qui se nomme « Le froid, l'adaptation, le froid, adaptation, production et effet et représentation ».
OK.
Fait que c'est vraiment intéressant parce que ça aborde aussi la notion, justement, de la sensation. Tu sais, comment on vit avec le froid. Puis dans l'ensemble de ces écrits-là, ben on voit à la fois, tu sais, l'expérience sociale, mais aussi comment ça a un peu forgé le monde au niveau autant des technologies que du paysage.
OK.
Ensuite, on a une autre référence qui est... en fait, on retrouve dans ce document-là du Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord les propos d'Olivier Legault, qui a également participé à l'écriture des principes et stratégies d'aménagement hivernal du réseau actif d'espace public de Montréal en 2018.
OK. Est-ce que c'est des lectures accessibles à tous, genre? Comme si je n'étudie pas en urbanisme ou en architecture de paysage, je vais comprendre.
Oui, oui.
OK, ouais, c'est grand public.
Je pense que c'est aussi des lectures citoyennes.
OK, OK.
Dans le sens que c'est intéressant pour des fois vouloir encourager certaines modifications d'aménagement dans le quartier, de comprendre un peu le genre de demandes qui peuvent être faites.
OK, très cool.
Fait que ça, c'était en 2018, puis c'était un document qui avait été produit par Vivre en Ville, un organisme que vous connaissez peut-être.
Pas de mon côté.
Non, mais il formule des recommandations pour le vivre en ville.
OK.
La Revue québécoise d'urbanisme en 2020 a également publié une revue complète sur le sujet, sur comment vivre en hiver dans la ville. Très Donc, cool. Sachons-le, l'hiver est un sujet chaud.
jeu de mots.
Je sais pas si tout le monde l'a vu, mais cette année, à Montréal, il y a de plus en plus de rues piétonnes hivernales.
Oui, comme dans mon quartier, dans Villeray, il y en a une. Je suis pas allée. Je suis vraiment déçue de pas être allée. Mais oui, ça m'a l'air super bien. Il y avait des petites activités. Il y avait une patinoire dans la ruelle. Cool. Dans la rue.
Dans la rue,
ouais.
C'est ça.
C'est vraiment cool.
Très cool. Fait qu'on voit que la notion de vivre l'hiver à l'extérieur puis de s'amuser prend de plus en plus forme.
Mm-hmm.
Pas seulement justement dans les grandes sphères comme l'espace des spectacles, mais également dans les quartiers, au cœur des quartiers. Puis ça fait partie des différentes recommandations, dans le fond, pour favoriser l'expérience hivernale. Comme par exemple... de créer des réseaux hivernaux, fait que de pouvoir traverser des rues facilement, ou d'avoir des carrefours d'hivernalité où les gens peuvent se rencontrer puis prendre de la place aussi. Parce que comme tu disais, en hiver, on a souvent des manteaux, on est souvent encombré. Mm-hmm. Fait que c'est toujours le fun d'avoir plus de place.
Ben oui, c'est sûr.
Puis après, c'est sûr, il y a toutes des notions aussi de favoriser le transport actif pour pouvoir faire du vélo d'hiver, du ski de fond, pour se rendre à ses activités préférées.
Mm-hmm.
Puis toutes ces notions-là. Puis comme tu as dit, le vent, c'est aussi un autre élément à prendre en compte quand on aménage des espaces publics pour l'hiver.
Mm-hmm.
De comprendre un peu,
réduire les courants.
Oui, exactement. Fait que c'est quelques pistes, mais il y en a aussi plein d'autres qui existent.
À explorer.
Exact. Oui, et j'allais oublier la mise en valeur des paysages hivernaux.
Ah.
Je sais pas dans quel... je sais dans quel quartier tu vis, mais des fois, c'est justement, tu sais, comme on passe notre temps à enlever la neige partout, puis dans certains quartiers, quand tu sors, s'il y a pas de végétation au sol, la neige, elle reste pas là.
Ouais, tu la vois plus.
S'il y a juste de l'asphalte dans ton quartier, une fois qu'elle est enlevée,
Elle disparaît.
Il n'y a plus de paysages hivernaux à contempler. Mm-hmm. Fait que la mise en valeur de ces sites-là, les voir, puis pouvoir aller rejoindre des amis sur l'espace public, mais c'est toutes des dynamiques qui font qu'on apprécie un peu plus l'hiver.
Ben oui, absolument. Oui. Maintenant que ça me rappelle la fois où on avait fait un meet-up sur ton balcon parce que c'était la pandémie puis il faisait genre moins 20 dehors, mais on avait passé une bonne soirée.
Oui.
Mais on oublie qu'on peut encore faire ça, là, post-pandémie, oui, aller se rejoindre dehors,
oui,
entre amis.
Oui, c'est vrai. Et se bercer sur un balcon. Pourquoi pas. Donc, ben, c'est ce qui termine notre émission.
Oui, de cette semaine.
De cette semaine.
C'est une bonne émission, je pense. Hein?
Oui, hein, c'était complet.
Belle entrevue. Oui, très contente de cette rencontre.
Un peu d'improvisation.
Oui, comme toujours.
Donc, on termine l'émission en vous souhaitant une belle semaine.
Oui.
Amusez-vous. Tempête ou pas, tempête.
Ben là, si, écoute ça, jeudi, tempête sera en plein cours.
Dites-nous, elle était comment?
Oui, c'est ça, on vous parle du passé.
Et on termine en chanson. Pour ceux qui voudront pas faire de ski de fond pour se promener, vous pouvez prendre le taxi de Thaïs. On s'en va en chanson avec Taxi de Thaïs, un nouvel extrait qui annonce la sortie de son album intitulé « Personne ».
C'est ce petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
J'ai vraiment mieux.
Eh ben voyons donc, j'ai jamais entendu ça.
En tout cas, moi, j'écoute toujours ça quand je me promène en ville.
Pour plus de déambulations urbaines remplies de découvertes musicales, vous pouvez nous écouter à Va sur ton chemin tous les vendredis matins de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89.3 La Marge.
C'est un rendez-vous!
Oh. Ne manquez pas Les Pénibles, chaque mardi, 21h30, live, CISM 89.3 FM.
Du 18 février au 1er mars 2025, en co-diffusion avec le Théâtre des Trompes, le spectacle Humeur de Veuve sera sur les planches du Théâtre aux Écuries. Une adaptation théâtrale de Parents et amis sont invités à y assister d'Hervé Bouchard dans une mise en scène de Charlotte Gagné-Dumais. Un solo par Marilyn Perrault dans la langue inventive et foisonnante de l'auteur. Bienvenue dans cette cérémonie en compagnie de la Veuve Manché. Info et billetterie sur osecurie.com.
Le festival Le Focoff est de retour à Québec du 14 au 22 février prochain pour sa 11e édition. Une grande célébration de la musique émergente et alternative fera vibrer la ville capitale avec plus de 100 artistes. Viens faire le plein de découvertes musicales et entendre notamment Angine de Poitrine, Kaya Hawkes, Marie-Céleste ou Sandra Contour. Tous les détails sur focoff.com.
Alexandre.
Oui, Simon.
C'est quoi ton nom?
Mon nom, Alexandre.
Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM.
J'aime CISM.